Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi.
Bonsoir à chacun. Voilà, quand Samuel a prié, il a dit « Le meilleur est devant vous » et comme j'étais derrière lui, j'ai bien compris qu'il ne parlait pas de moi. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Une parfaite journée? Il y en a qui ont passé une parfaite journée? Ben, pas moi, j'ai passé une journée difficile. On était en voyage avec Brigitte, il n'y a eu que des ennuis, que des difficultés. Un pneu crevé, éclaté, après le type qui devait me le réparer ne l'avait plus. Après, finalement, c'est arrivé trop tard. Après, ma carte bleue ne marchait plus pour le payer. Après, j'ai vu que j'étais cerné aujourd'hui, cerné. Et alors, comme ce n'était pas une parfaite journée, ça m'a aussi rappelé que je n'étais pas parfait non plus. Certains indices m'ont rappelé que je n'étais pas parfait, voilà. Et est-ce qu'il y en a qui sont parfaits? Qui est parfait? Tous ceux qui sont parfaits, je veux dire, c'est juste pour faire une statistique. Est-ce que vous pouvez lever la main? Bon, ben les stats sont vite faites, alors. Mais au fond, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, juste entre nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que Dieu nous demande d'être parfait? Non. Quels sont ceux qui pensent que Dieu nous demande d'être parfait? Oui, comme vous me connaissez, vous hésitez à répondre, hein? Et finalement, vous n'avez pas tort. Parce que la question de savoir si Dieu nous demande d'être parfait est une question extrêmement sérieuse. Est-ce que Dieu nous demande d'être parfait? Oui ou non? Oui. Ah, tout d'un coup. Voilà, on va. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit périple dans l'évangile de Matthieu. Et j'aimerais voir, on verra ça sur le temps qu'il nous faudra, comme ça, de loin en loin, les différents discours de Jésus qu'il y a dans Matthieu. Il y en a 5. Le premier est sûrement celui qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, ce qui n'était d'ailleurs pas un sermon et pas une montagne non plus, mais ça fait rien, il s'appelle le sermon sur la montagne. Je dis que ce n'était pas un sermon parce que le mot sermon a souvent une connotation un peu péjorative, hein, quand on dit que quelqu'un vous a fait un sermon. C'est pas, ça veut dire quelque chose d'ennuyeux, de pénible, trop long, où il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Or, c'est justement ce que Jésus faisait pas, puisque lui, il prononçait des paroles de vie, des paroles qui donnaient du sens, des paroles qui donnaient de la valeur, des paroles qui révolutionnaient la vie de tous ceux qui l'écoutaient. Et donc ce sont des paroles de communication. Et je dis que c'était pas une montagne parce qu'au sens des montagnes des Alpes, bon, ben c'était pas tout à fait une montagne, mais en tout cas une colline, un mont, etc. Alors dans ce sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6, 7 dans Matthieu, on va pas tout voir. Il y a le passage le plus connu au début, c'est les béatitudes, heureux les simples en esprit, etc. Je pensais à personne en disant ça. Et puis après, vous avez le passage qu'on va voir ce soir. C'est le passage qui regroupe un certain nombre de formulations que Jésus a chacune commencé en disant « Vous avez entendu dire que... Mais moi je dis... » Voilà. Donc il y en a plusieurs, il y a une petite liste comme ça, 5 ou 6. Jésus dit « Vous avez entendu que... On vous a appris que... On vous a enseigné... » point de suspension, telle ou telle chose, mais moi, je vous dis. Donc Jésus se situe clairement, il s'identifie et il dit explicitement que son message est nouveau. Il est en train d'affirmer qu'il va apprendre à ses auditeurs, il va leur donner une conception de la vie, une conception du temps, une conception des valeurs de vie, quelque chose de totalement nouveau. Oui, je m'arrête déjà si c'est l'heure, non ? Le cours de fondement a été oublié par, je ne sais pas, quelqu'un qui faisait les annonces. Donc, pour ceux qui suivent le cours de fondement, vous pouvez, oui, c'est le moment. Enfin, c'était déjà le moment tout à l'heure, mais ça l'est encore maintenant. Donc, vous pouvez vous lever. Et puis, c'est dans la chapelle, juste comme l'autre fois. Donc, tous ceux qui l'avaient suivi l'autre... Non, ne vous découragez pas, on vous attend bien là-bas. Voilà, ça y est. Voilà, ils y vont, c'est toute une foule qui se lève. Et voilà, continuez d'y aller en foule. Voilà. OK. Donc, nous reprenons. Alors, Jésus s'inscrit donc dans la perspective d'un message nouveau. Et on verra que c'est pas qu'il nie ce qui a été dit avant, c'est pas non plus qu'il s'y oppose, c'est pas qu'il le déclare faux ou dépassé, périmé, obsolète, tout ce que vous voudrez, non. Mais on verra que ce que Jésus veut dire, c'est qu'il va plus loin. Ce qu'il dit englobe ce qui a déjà été dit, mais lui nous amène beaucoup plus loin. Jésus ne s'oppose jamais à ce qui a été dit dans la loi de Moïse en particulier, puisque le plus souvent, les affirmations qu'il apporte sont basées sur ce que dit la loi de Moïse. Vous avez entendu par la loi. Donc Jésus ne s'y oppose pas, il ne déclare pas que c'est aboli, mais il dit on peut voir plus loin. Donc il va nous révéler qu'il y a dans la loi de Moïse, il y a une intention pédagogique qui était d'illustrer, de montrer, de préparer, mais pour montrer que l'obéissance seule aux préceptes, c'est-à-dire aux cérémonies, est insuffisante et elle est même illusoire. On peut obéir à des préceptes, à des cérémonies, à des faits religieux, et pourtant ne pas s'être approché réellement de la nature de Dieu. En fait, ce que Jésus nous montrera dans ce passage, c'est que ce que Dieu attend, ce que Dieu cherche, ce que Dieu désire, hein, c'est le cœur de ses enfants. Pas simplement un acte extérieur, pas simplement une obéissance avec formelle, religieuse, avec des sacrifices, des offrandes, etc. Mais beaucoup plus, ce que Dieu regarde, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Hein. Nous pouvons être assis ici ce soir et présenter à Dieu, par cette réunion, quelque part, une forme de sacrifice religieux, d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, ce qui plaît à Dieu, c'est la motivation et le pourquoi et comment nous le vivons dans sa présence. On peut perdre son temps tout en étant à l'église. J'espère pas ce soir. Voilà, Matthieu 5, 21, voilà. Nous lisons, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca », j'ai dit « Raca » par « racaille raca », mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. » Voyez, Jésus imagine quelqu'un qui est en train d'aller, à l'époque on dit l'autel parce que c'est dans la culture de la loi de Moïse, c'est dans le temple, et que cette personne, au moment d'offrir son offrande, se rappelle tout d'un coup, il lui revient qu'il s'est disputé avec quelqu'un, son frère, sa sœur, sa belle-mère, je ne sais pas. Et donc, il s'en souvient. Jésus dit, alors si tu te souviens, non pas que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, mais même si c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi, alors laisse tomber, ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin. Pourtant, dans ce qui est apparemment le service de Dieu, ça, on pourrait dire, normalement, on imaginerait que la priorité, puisque Dieu est la priorité dans notre vie, on pourrait imaginer que Jésus confirmerait que priorité doit être donnée à ce qu'on fait pour Dieu. Mais Jésus dit non, ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin. Si d'abord tu ne vas pas te réconcilier avec ton frère, alors ton offrande ne sert à rien. Mais d'abord, va te réconcilier avec lui, et puis après, tu peux vraiment offrir une offrande. C'est-à-dire, après, l'offrande que tu vas offrir, eh bien Dieu va l'agréer. Avant, tu auras juste fait un acte religieux, mais un acte religieux sans intérêt. Alors vous voyez, pourtant, Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Il dit ça, c'est, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas tuer. Et évidemment, Jésus ne va pas contredire ce commandement. Hein? On est d'accord. Seulement, Jésus dit, au fond, pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Dieu dit ça parce que Dieu a posé dans le peuple, il a posé des lois qui sont des lois, quelque part, en tout cas pour celles-ci, qui sont des lois minimum. C'est des lois sociales pour que l'ordre social dans son peuple et dans la société en général demeure. Hein. Mais ce n'est pas seulement ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est dans notre cœur vis-à-vis de nos frères. Donc, tu ne tueras pas, bien sûr, c'est vraiment un minimum. Mais Jésus va tellement plus loin que c'est comme si, quelque part, c'est presque comme s'il annulait le commandement précédent, tellement il va loin. Il dit, en fait, dès qu'on commence à se traiter d'imbéciles les uns les autres, ben, des fois on ne le dit pas, mais on le pense. Non, ben, personne ne le pense, mais il y en a qui le pensent. Des fois, je suis en voiture, quelqu'un me fait un truc que j'aime pas, je dis, mais quel consternant personnage, voyez. Et je m'aperçois que c'est difficile. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout le sentiment que cette personne est mon frère. Même pas qu'il pourrait le devenir. Mais Jésus dit... Non, mais il peut quand même. Mais Jésus dit, et il y a comme une graduation, vous voyez, dans ses jugements. Il dit, celui qui se met en colère contre son frère, donc là, la plupart, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que se mettre en colère, c'est... Mais je vous expliquerai après, pour ceux qui ne savent pas. Mais pour ceux qui connaissent, ils comprennent. Donc, se mettre en colère, et celui-là, il est passible de jugement. Donc un jugement, ça veut dire, après, à terme, ça veut dire une condamnation. Un peu plus loin, c'est plus fort. Celui qui dira à son frère Raca, donc évidemment, ça doit être l'équivalent de stupide, je ne sais pas, stupide, crétin, enfin bon, ça dépend, il y a tous les degrés. Eh bien, celui-là mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc là, c'est plus fort, parce que ce n'est pas juste un jugement, c'est pas j'allais dire entre guillemets, un petit jugement, mais le Sanhédrin, à l'époque, c'est le tribunal supérieur, c'est le grand tribunal, c'est celui qui prend les décisions d'excommunication, etc. Donc c'est plus loin. Et celui qui lui dira insensé, et alors là on ouvre des grands yeux en lisant le texte, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est-à-dire qu'il entre dans quelque chose qui le met en opposition avec la justice même de Dieu. On n'est plus dans la justice des hommes, on n'est plus dans le jugement du code civil, on n'est plus dans le jugement du Sanhédrin qui est le tribunal religieux, mais on est sous la condamnation de Dieu lui-même. Alors, si quelquefois je me dis peut-être je devrais m'arrêter là, et puis donner du temps à tous ceux qui ont quelque chose contre quelqu'un, ou tous ceux qui s'imaginent que peut-être quelqu'un a quelque chose contre eux. Parce que Jésus a dit, si c'est ton cas, Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier. Ce que tu fais de reste devant Dieu n'a aucun intérêt. Donc, voilà, je vous donne la permission. Si vous avez maintenant besoin d'aller voir quelqu'un, ben peut-être qu'il faut le faire. Alors vous ne pourrez peut-être pas tout raconter maintenant, mais prenez rendez-vous, dites ben, ce soir ou demain, je ne sais pas, ou dans la semaine, on se donne rendez-vous et on discute et on se réconcilie. Vous voyez, l'évangile doit aboutir à du concret. Et c'est la grande différence entre la loi et la transformation du cœur. Parce que dans une loi, on peut être juste et avoir obéi à tous les commandements et pourtant n'être pas changé de l'intérieur. C'est pour ça que Jésus apporte un message qui est tout à fait révolutionnaire, parce qu'il dit, bon, ok, d'accord, la loi, oui, c'est un minimum vital, ça vous met sur la piste, ça vous met sur la voie, mais si vous voulez plaire à Dieu, alors il va falloir changer ça complètement, parce que ce que Dieu attend, c'est la transformation de l'intérieur, c'est la transformation du cœur, ok? Alors, ça peut nous sembler curieux, parce qu'on se dit que Jésus est en train de dire que la petite faute est aussi coupable que la grande. Puisque la petite faute, entre guillemets, d'avoir traité quelqu'un d'insensé, pouvait conduire à la géhenne. Et donc ça voudrait dire que la condamnation est la même que pour celui qui a tué. En fait, ce qu'on sait de la nature humaine, c'est que, bien sûr, c'est d'une part que les hommes commettent beaucoup de péchés, et d'autre part qu'il y en a beaucoup qui ne commettent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Donc ça les... Ça, je veux dire, ce que j'ai dit là, ça les valorise pas, hein. Vous m'avez compris. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met réellement en colère du dedans contre quelqu'un, s'il ne lui fait pas de mal... C'est pas parce qu'il a pas envie de lui faire du mal. C'est parce que souvent, les circonstances ne le lui permettent pas. Mais si les circonstances étaient tout à fait favorables, alors celui qui est capable de traiter quelqu'un d'imbécile et de se mettre en colère contre lui, celui-là pourrait aussi consommer contre lui de la violence. En général, nous n'aimons pas ces genres de choses parce qu'on n'accepte pas d'être lucide sur ça. On préfère se dire, non, moi je suis juste capable de le traiter un petit peu de quelques noms d'oiseaux, je suis juste capable de me mettre en colère oralement, verbalement, mais je n'irai jamais plus loin. Est-ce que tu en es sûr? En tout cas, ce n'est pas ce que Jésus dit. Nous continuons. La suite dit au verset 25, la suite. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire, dit Jésus, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Jésus est en train, imagine ici, donne une illustration qui est comme l'image de deux personnes qui se seraient tellement disputées qu'elles sont maintenant dans un recours devant la justice. Il y en a un qui est en train de traîner l'autre devant les tribunaux. Et Jésus dit, fais gaffe, parce que si tu rentres dans ce genre de logique-là, tu sais pas si tu vas gagner. Et tu risques d'être condamné, et tu vas devoir payer lourdement. C'est seulement une illustration. C'est pas seulement à cette situation-là que Jésus fait allusion. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que si notre cœur n'a pas envie de la réconciliation, alors les inconvénients vont revenir sur nous et nous retomber dessus. Il y a des gens qui, quelquefois, c'est très curieux, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et qui travaillent pour Dieu et qui sont toujours en dispute avec quelqu'un. Vous avez des personnes qui servent Dieu, et si à un moment t'es zéro comme ça, vous demandiez, est-ce que maintenant, en ce moment, tu n'as aucune dispute avec quelqu'un, il pourrait pas dire oui. Vous pouvez pas les surprendre en état de paix. Vous ne pouvez pas. Ils ont toujours un conflit avec quelqu'un. Les ennuis, après, quand ils en ont beaucoup, les surprennent, et c'est surprenant que ça les surprenne. On continue. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus dit, mais moi, je vous dis, et évidemment Jésus est d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais il nous fait aller plus loin. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et là aussi, dans l'ambiance morale, ou plutôt amorale de notre société actuelle, une telle parole paraît un peu outrée. Parce que dire que quelqu'un, par simplement un regard de convoitise, ait déjà commis l'adultère, aujourd'hui dans notre société, où déjà l'adultère lui-même est déjà largement banalisé, en tout cas chaque fois que c'est nécessaire, La convoitise paraît, j'allais dire, une faute mineure, peut-être même pas mineure, c'est un genre culturel, c'est un genre de vie, c'est un style de vie. Or Jésus, ici, va plus loin que dans l'exemple précédent, où la colère risquait de porter à la culpabilité. Mais Jésus dit, ici c'est encore, ça va plus loin, il dit pas que ça risque de porter à la culpabilité, il dit que c'est déjà la culpabilité. C'est déjà la culpabilité. Quand quelqu'un, un homme ou une femme convoite, eh bien déjà, il est entré dans la culpabilité. Et évidemment, la convoitise, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est tolérée, banalisée, nourrie même, eh bien évidemment, un jour ou l'autre, elle va conduire à la réalisation de l'acte. Mais la faute ne commence pas à la réalisation. La faute commence lors de l'acceptation de la convoitise. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas seulement l'aspect formel du suivi des commandements qui intéresse Dieu, mais c'est ce qui se passe dans le cœur. Vous avez des gens qui ont du charme, des hommes, des femmes qui ont du charme. Dit autrement, c'est des gens qui suscitent facilement un attrait de la part des autres. Alors ces personnes-là, si elles ont de la convoitise, eh bien elles peuvent facilement facilement trouver le moyen de la réaliser. Mais vous avez des gens qui n'ont pas ces qualités-là. Alors eux ne tombent pas facilement dans la réalisation de l'adultère, mais est-ce à dire que leur cœur est plus pur ? Ah, peut-être pas. Ce que Dieu regarde, c'est pas ce qui se fait. Ce que Dieu regarde, c'est ce que le cœur fait. Et donc, quand les auditeurs de Jésus écoutaient ce genre de discours, je suppose que beaucoup étaient troublés. Parce que finalement, ils se disaient, mais on s'est attaché à respecter la loi de Moïse. Bon, on n'arrive pas toujours tout bien, mais enfin, on fait quand même ce qu'on peut. Et voilà que maintenant, d'un seul coup, Jésus nous propulse dans des sphères qui sont bien plus exigeantes. Et des fois, je suis un peu étonné quand j'entends des chrétiens même dans nos milieux, des fois, des gens qui disent hein, « Oh, mais la loi de Moïse, c'était dur, c'était exigeant. Heureusement, maintenant, nous sommes sous la grâce. » Ça m'inquiète un peu. Parce que le ton avec lequel c'est dit, souvent ça veut dire Ça veut dire souvent, avant Dieu était exigeant, mais heureusement maintenant il s'est ravisé. Heureusement maintenant Jésus a inventé la grâce entre deux, hein. Et du coup maintenant, voilà, du coup maintenant Dieu est plus tolérant, etc. Est-ce que vous avez bien compris le genre de message du sermon sur la montagne, qui nous dit que seulement les exigences de la loi étaient seulement une petite illustration pédagogique pour nous mettre sur la voie de ce que Dieu attend. Et ce que Dieu attend, c'est la transformation du cœur. Autrement dit, ce que Dieu nous demande, ça, c'est la conclusion après de ce passage et de tout ce discours, ce que Dieu attend, c'est que nous soyons parfaits. Alors, on a raison de dire que Dieu n'exige pas que nous soyons parfaits pour être en bonne relation avec lui, sinon, d'une certaine façon, personne ne le serait. Mais ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu de grâce et qui pardonne, c'est pas pour autant que Dieu fait des compromis. Dieu ne fait pas des compromis avec sa propre sainteté. Ce que Dieu attend de nous, c'est la perfection. La fin de ce passage, verset 31, enfin, c'est une illustration, Jésus dit « Il a été dit ». Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est ce que la loi disait. Jésus ne dit pas que c'est faux, mais il va plus loin. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. Je ne veux pas rentrer dans tous les débats que ce sujet, combien important, suscite, mais simplement juste pour dire une chose, c'est que c'est un argument qui était fréquemment utilisé à l'époque de Jésus par ceux qui avaient tout simplement envie de changer de femme. Alors il disait, mais la loi de Moïse a dit que si une femme est répudiée, son mari doit lui donner une lettre de divorce. Et donc, il prenait le commandement à l'envers et il disait, donc la loi de Moïse nous dit que quand on veut divorcer, on donne à son ex-femme une lettre de divorce, et donc on peut divorcer. Mais Jésus dit, mais la loi de Moïse n'a jamais dit ça. La loi de Moïse n'a jamais dit que si quelqu'un veut divorcer, qu'il divorce. La loi de Moïse dit que si quelqu'un fait l'incomparable erreur, l'incomparable culpabilité de divorcer, Alors, pour que son épouse répudiée ne soit pas considérée comme une pestiférée, et qu'elle ne soit pas dévalorisée et dans la honte, qu'au moins il lui donne une lettre de divorce. C'est juste un élément de protection, mais le fait que la loi de Moïse prescrive de donner une lettre de divorce à celle qui est répudiée, ça n'encourageait pas, ça ne banalisait pas, ça ne justifiait pas, ça ne légalisait pas devant Dieu le divorce. Ce que Dieu voulait seulement éviter, c'est que pour la femme répudiée, que ce ne soit pas encore en plus le fait de se retrouver complètement à la périphérie de la communauté et qu'elle ne se retrouve pas complètement excommuniée. Mais voyez, on peut arriver à trouver des arguments, on les change de sens, et aujourd'hui des gens changent les choses de sens et ils disent, et ils trouvent des raisons, oui mais parce que l'autre, oui je connais un cas, etc., moi c'est pareil, etc. Et à la fin, on voit dans certains milieux des gens, même des fois qui faisaient profession d'être chrétiens, et qui arrivent à se trouver des raisons quasi bibliques pour justifier de mettre fin à un couple. Je dis, il faut faire attention. Parce que la loi, même si on trouvait des lois, même si on trouve des raisonnements, ce que Jésus nous rappelle, que ce que Dieu regarde, ce que Dieu discerne, ce que Dieu pèse, c'est ce qui se passe dans le cœur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc faisons attention à ne pas nous trouver des justifications trop faciles avec tout ça. Je passe au point suivant. Encore un, vous avez appris au verset 33. Verset 33, Jésus dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, là encore, Jésus ne nie pas la réalité de la loi, mais simplement, il montre que ce texte qui demandait aux Juifs de ne pas transgresser leurs propres paroles, de ne pas prononcer des faux serments, et est seulement une piste qui les conduit plus loin. Et Jésus extrapole en disant « En réalité, il nous faut respecter celui qui nous voit, celui qui juge de nos cœurs, nos vies, nos paroles, nos décisions, nos engagements, etc. Que ça se voit ou non, de toute façon, Dieu, lui, le voit. Dieu le voit. Et multiplier les grandes phrases, c'est une chose, mais la réalité, c'est ce qu'on fait derrière. Vous savez comme moi, c'est pas la peine de le redire, vous savez comme moi combien de personnages, les hauts personnages de nos sociétés politiques ou autres, hein, combien nous ont fait prononcer des serments, ont juré que ceci, que cela, et puis 6 mois après, la conjoncture avait changé, et finalement, ils faisaient exactement le contraire, non ? Je me rappelle d'un ministre qui avait juré qu'il ne serait jamais le ministre de l'essence à 2 euros, je ne sais pas quoi. Hein. Et puis finalement, c'était bien lui quand même. Ou des choses comme ça, c'est des trucs à bracadabran, ou des choses dans l'immoralité, des serments, j'ai jamais touché. Le gars, il a encore la main dans le pot de confiture, il jure que c'est pas lui. Non mais... C'est incroyable. Alors, quelquefois, on a quelquefois discuté, à juste titre, dans l'Église, sur ce fait de ne pas jurer. Parce que, par exemple, quand vous arrivez au tribunal, en tout cas pas dans toutes les instances, mais quelquefois on vous demande de jurer. Hein, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Alors, certains chrétiens étaient embarrassés avec cette demande, et certains, des fois, au tribunal, ont dit « Monsieur le Président, je suis désolé, mais ma religion ne me permet pas de jurer ». Alors avec des effets quelquefois différents, il y en a qui ont compris. Et je me souviens d'un pasteur qui a dit ça au tribunal à propos de, je ne sais plus, une affaire où il était seulement témoin, il était témoin. Et le président a tellement été fâché, il se sentait déjugé dans son honneur, qu'il a regardé le greffier, il a dit 8 jours de prison immédiatement. Mais après en appel, ça a été enlevé, quoi. Mais bon, voilà. Alors, à mon sens, je pense pas, ça me gênerait pas personnellement. Après, on peut avoir des approches différentes. Hein. Personnellement, ça ne me gênerait pas au tribunal de dire je le jure, parce que c'est pas ça que Jésus condamne. Ce que Jésus condamne, c'est le fait de prendre à témoin des choses sur lesquelles nous n'avons pas prise. Comment vas-tu jurer par Dieu ? Attends, mais c'est qui ? Tu as une autorité sur ce que Dieu est. Tu as une capacité sur ce que Dieu fait. Évidemment, non. Et sur la terre, non plus. Et même, regardez comme, avec le cas tragique qui nous a été rapporté tout à l'heure, est-ce que quelqu'un peut jurer par sa propre vie ? Jésus dit. Est-ce que tu peux jurer par ta propre vie ? Mais personne n'a l'assurance formelle que demain matin, il est encore vivant. Et je vous le souhaite à tous, notez, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais qui sait s'il est vivant demain ? Personne. Voilà, donc Jésus dit, comportez-vous avec les choses spirituelles comme étant des gens qui savent se reconnaître petit, restez humble, restez soumis à Dieu, laissez Dieu conduire les choses que vous, vous ne connaissez pas, qui ne sont pas de votre ressort. Mais quant au fait de dire la vérité et d'être juste dans vos engagements, alors là, soyez connus pour des gens qui sont rigoureux quand vous avez décidé quelque chose. Quand vous avez dit « oui, je le ferai », alors qu'on sache que vous allez le faire. « Oui, je paierai », alors sachez que tout le monde sache que vous allez payer. Que même si plus tard on se dit « mais ah oui, mais au fond, finalement, j'aurais pu trouver moins cher ailleurs. » Oui, mais tu étais engagé. Oui, mais c'est moins cher. Oui, mais... Une fois, j'ai discuté avec des frères, un frère qui avait pris un engagement de parrainage, voilà... Pour des enfants en mission. Et puis, il a pris cet engagement, mais il n'a pas donné à cet engagement aucune durée. Alors, à un moment, ben, quand il n'y a pas de durée, ça peut devenir long. Hein. C'est comme l'éternité, hein. c'est long, hein. C'est surtout vers la fin, quelqu'un dit. Hein. Mais là, lui, ce n'était pas éternel, mais il trouvait que ça durait quand même longtemps. Alors un jour, on en discutait comme ça, et un jour il disait, écoutez, bon quand même, maintenant, moi je pense que je peux être dégagé de cet engagement, j'ai quand même payé depuis longtemps, aujourd'hui, c'est... Moi je lui dis, tu fais comme tu veux, mais la parole que tu as dit ne disait pas que tu avais mis une limite. Donc ça, tu fais comme tu veux. Mais si tu as pris un engagement, alors cet engagement doit aller au bout. Je comprendrais, par exemple, que cet engagement s'arrête lorsque le parrainage que tu avais pris auprès de ces enfants sont maintenant adultes et que maintenant ils sont autonomes. Là, je comprends que ça tombe sous le sens, que c'est fini. Tu vas pas les soutenir. Tu t'étais engagé pour l'éducation des enfants, pas dans un cadre de gérontologie. OK. Donc il y a une borne de bon sens. Mais on peut pas juste arrêter parce que on n'a plus envie. Et ça, c'est une notion qui, aujourd'hui, dans notre société, doit être, même pas rappelée, mais qui doit être enseignée. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, maintenant postmoderne, le terme d'engagement n'a plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que quand on s'engage parce qu'on en a envie. Et que quand on n'en aura plus envie, par définition, on sera dégagé. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit que quand tu as dit oui, ça veut dire oui. Si tu veux t'engager dans le temps, alors dis je m'engage pour un an. Alors au bout d'un an, tu es dégagé. Mais pas au bout de 6 mois. Non, mais il faut être attentif à ça. Aujourd'hui, ça devient difficile de dire ça parce que la notion de nos grands-pères de « j'ai donné ma parole » aujourd'hui ne veut plus rien dire. Parce que même aujourd'hui, même quand les gens ont non seulement donné leur parole, mais ils ont écrit, ils ont signé, même les papiers, si on peut, les papiers n'ont plus d'importance. Alors, une parole, vous comprenez, une parole, ouh, les paroles. Mais Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. On ne peut pas se dégager comme ça. Et ça, c'est une preuve, c'est quelque chose qui, devant le monde, qui montre que notre caractère est un caractère qui marche dans la vérité. Voilà. Le point suivant, vous avez appris, verset 38, vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Verset 38. « Mais moi, dit Jésus, je vous dis... » de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, l'œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et malheureusement, souvent, cette loi est déformée et elle est très mal comprise. On l'a souvent présentée comme une espèce de loi un peu cruelle, agressive, méchante, etc. Mais, frères et sœurs, est-ce qu'une société humaine pourrait subsister s'il n'y a pas une loi ? Est-ce qu'une société humaine peut subsister s'il n'y a pas un code pénal ? C'est-à-dire s'il n'y a pas des peines pour ceux qui font le mal. Est-ce que Dieu est contre ça ? C'est pas simplement une loi de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament tout entier confirme la nécessité, le côté indispensable de ça. Si tous les voleurs, les méchants, les mécréants, les pirates, les assassins, etc., si on se contente quand on les attrape de leur dire « c'est pas bien ce que vous avez fait là ». Est-ce que vraiment, est-ce que la justice va régner ? Déjà aujourd'hui, tout le monde se plaint qu'elle ne règne pas beaucoup, mais justement, parce que les lois sont ne, c'est pas qu'elles sont mal faites, mais c'est simplement qu'elles sont généralement pas appliquées. On fait des lois, on ne les applique pas. Donc la loi de la rétribution du coupable par une peine est une loi indispensable à la vie humaine. C'est une loi indispensable. Aucune société n'existe. C'est la base du code, la loi du talion. C'est la base du code pénal. Ce que la Bible voulait dire, c'est pas un refus de la miséricorde. Ce que la Bible veut dire, c'est que le coupable doit être déclaré coupable. J'ai pas recherché la référence, excusez-moi, mais dans les proverbes, vous avez un proverbe qui dit clairement que c'est une même malédiction si un innocent est condamné et c'est une même malédiction si un coupable n'est pas condamné. C'est la même faute parce que c'est la même injustice. Jésus dit que le méchant soit condamné. Et quand la Bible disait œil pour œil, dent pour dent, vous avez des gens qui connaissent rien à la Bible, qui se sont plus à caricaturer ça, comme si parce que quelqu'un avait malencontreusement crevé un œil à quelqu'un, alors on allait à lui aussi lui crever un œil. Non mais attends, mais il faut quand même voir. Hey. Quand même pas être bête, hein? Est-ce que la Bible dit ça ? Non, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que pour un œil, le coupable va payer le prix d'un œil. C'est-à-dire qu'on va lui infliger une peine, mais on va pas, ou s'il a cassé une dent à quelqu'un, on va pas lui en casser une. Hein ? Il vous a cassé quelle dent ? Ben c'est la prémolaire arrière gauche. Bon, ouvrez grand. Non. Alors, enfin, je sais pas, moi. Réfléchir un peu. Hein ? Bon. Mais c'est normal. Seulement ça, c'est juste un principe fondamental, formel. Jésus dit ça, oui, ok. Mais si une société ne fonctionne que avec ça, alors elle ne va pas faire de progrès. Jésus dit, moi je vous dis d'aller plus loin que ça. Ça c'est juste, oui, ok, d'accord. Mais on peut aller plus loin que ça. Et que dans la gestion des conflits interpersonnels, si chacun décide de ne pas retenir l'offense, si chacun décide de pardonner, si chacun décide de montrer de la miséricorde, si chacun décide de montrer de l'indulgence, alors la société va faire des progrès. La loi du talion, la loi tout court, est indispensable, mais elle ne changera pas la société. Mais si les cœurs sont gagnés à la nature de Dieu, alors les choses vont évidemment changer. Mais même ça, des fois, ça a été mal compris. Vous connaissez, bon, je raconte toujours cette histoire parce que je l'aime bien. C'est un monsieur qui est un chrétien qui travaille à l'usine. Et puis, ses copains ont entendu dire qu'il est chrétien. Alors, il le chambre un peu. Et il y en a un qui lui dit une fois, alors, il paraît que tu es chrétien. Il dit, oui. Et si on te donne une gifle sur une joue, tu tends l'autre ? On comprend que l'autre n'était pas enthousiaste, hein, bon, ok. Mais il a dit oui. Donc le gars lui redonne une bonne sur la joue droite, et il dit maintenant, je fais ce que dit la Bible, je tends l'autre. Alors il a tendu l'autre, Et le gars lui en remet une sur la gauche. Après, il dit, après, Jésus a rien dit de ce qui se passe après. Et après, bon, après, on n'a pas filmé la suite, donc. Mais c'est sûr que si quelqu'un a compris l'enseignement de Jésus comme ça, ben il a pas fait de progrès non plus, hein. Hein? Il s'est seulement donné une marche supplémentaire, quoi. Mais il est toujours dans la loi, il est toujours dans le formel. Non. Mais comprenez aussi que ces paroles de Jésus ne contredisent pas le fait qu'il y ait de l'ordre dans la société. Jésus n'est pas en train de dire que les méchants ne devraient pas être punis. Il est en train de parler de la gestion des conflits qu'on a entre personnes. Si quelqu'un te donne une gifle, c'est un affront, c'est une humiliation. C'est pas une agression au coin d'un bois. C'est-à-dire que dans notre façon de gérer les offenses, comment on va faire? Est-ce qu'on va toujours dire, ouais, c'est lui, comme dans les cours de récréation, c'est lui qui a commencé? Mais des fois, des conflits d'adultes sont, alors on change juste un peu les mots, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je vois avec nos petits-enfants, quand ils se disputent, c'est toujours l'autre qui a commencé. Et comme si, parce que l'autre avait commencé, comme si ça justifiait la réponse. Mais des adultes sont pareils aussi. Oui, dans l'église, bien sûr, pas celle-ci. Mais quelquefois, c'est la même chose, c'est la même chose. Oui, c'est lui, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Seulement, il ne faut pas qu'il me cherche, hein. Ah. Intéressant. Non, donne. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est pas facile à faire, hein. Quand vous faites piquer vos affaires, je sais pas, et puis que vous courez après le voleur, dites, vous en avez oublié. C'est pas facile, hein, hein. Vous imaginez la scène? Oui, Samuel dit que c'est pour ça qu'il ne met pas de tunique. C'est une sage précaution, c'est très bien. Je félicite. Nous, une fois, alors je ne dis pas qu'on l'a toujours fait, mais une fois avec Brigitte, on avait, quand on s'est mariés, donc voilà, il y a très longtemps, et on avait notre seul bien, c'est qu'on avait une voiture. À l'époque, c'était une Coccinelle Volkswagen. Oui, vous ne connaissez pas, ça fait. Et donc, on l'avait parce qu'elle l'avait apportée dans la corbeille du mariage, hein, parce que moi, je n'avais rien. Donc, mais elle avait une voiture. Donc après, on avait une voiture. Et trois semaines après notre mariage, elle était une fois gentiment garée, bah, par Brigitte, la voiture, le long du trottoir. Et tout d'un coup, et pendant qu'on était en train de manger, voilà qu'un type nous a rentré dedans, dans la voiture, c'était un voleur, il avait lui-même piqué une voiture, et pour échapper aux gendarmes qui lui couraient après, les motards, donc il s'est garé un peu vite et précipitamment, bref, il nous a démoli notre bagnole, qui était complètement ruinée, morte. Après, il a trouvé le moyen de se tirer, ils l'ont pas rattrapé, mais le propriétaire de la voiture volée, lui avait eu le temps de faire la déclaration, donc son assurance a dit « Ah ben nous, on n'est pas responsable de rien ». Et on avait eu la bonne idée, une semaine avant, de passer en tierce collision parce qu'on n'avait pas de sous pour payer une assurance plus intéressante. Ce qui fait que notre assurance n'était pas intéressée non plus par notre cas. Bon, alors... Là, dans un cas comme ça, on a vraiment le sentiment qu'on s'est fait rouler, quoi. Hein, hein, hein. Nous, on s'est fait rouler. Et puis, on était jeunes convertis, j'espère qu'on le ferait encore aujourd'hui. Mais on était jeunes convertis, on s'est dit, mais cet homme a bien plus de problèmes que nous. Nous, on a perdu, voilà, on a perdu pratiquement tout notre capital, puisqu'on n'avait rien d'autre. Mais on a tout perdu. Mais on n'a rien perdu. Nous, on a la vie, on a Jésus, on a... Voilà, on s'est dit, ce pauvre type est vraiment dans une situation bien plus triste que nous. La police lui courait après, l'arme au poing. Enfin, bon, on a dit, un gars comme ça, s'il ne rencontre pas Jésus, il va où celui-là? Il court vers quoi? Vers l'enfer. Donc ça nous faisait de la peine. Moi, je me suis dit, avec les amis que j'avais, j'aurais pu aussi me retrouver dans des trucs foireux comme ça. Donc on a dit non. Quand on nous a dit, il faut au moins porter plainte, on a dit non. On ne peut pas à la fois prier pour lui et puis porter plainte. Bon, c'était une conduite. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas porter plainte. Je dis que c'est la conduite qu'on a eue. Donc, dans ce cas-là, on a dit non. Le soir, on a prié pour lui. On a dit, Seigneur, bénis-le, Seigneur, fais-lui du bien, qu'il puisse au moins rencontrer quelqu'un qui lui parle de toi, et puis que vraiment sa vie change. Parce que il nous faisait de la peine, quoi. Voilà, puis les choses ont passé comme ça. Et quelques temps plus tard, on a reçu un courrier de notre assurance qui dit, voilà, suite à votre sinistre, par rapport auquel, bien sûr, on ne vous doit rien du tout, Mais écoutez, à titre commercial et d'une façon totalement exceptionnelle, nous avons décidé de vous rembourser quand même. Et ils nous ont remboursé la voiture. Si ça, c'est pas un miracle. Parce que déjà que les assurances payent, des fois, c'est miraculeux. Hein, mais qu'elles payent quand elles doivent pas et qu'elles savent qu'elles doivent pas, ça, c'est plus difficile. Hein. Mais le Seigneur est grand. Voilà, donc... Nous bénissons même ceux qui nous font des ennuis. Verset 43, vous avez encore appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais, dit Jésus, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Est-ce que les publicains n'agissent pas aussi de la même manière? Si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Évidemment, la loi, Lévitique 19-18, disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je ne crois pas que la Bible disait d'une manière explicite « Et tu haïras ton ennemi ». Mais c'est la conséquence logique que Jésus ajoute. Dans le cadre où la loi nous demande seulement d'aimer ceux qui nous sont proches, ceux qui nous font du bien, si on ne précise pas plus, ça sous-entend que les autres, on peut ne pas les aimer, même peut-être les détester ou les haïr, quelque part. C'est logique. Mais Jésus dit « Moi, je vais vous amener plus loin ». La loi vous disait seulement d'aimer ceux qui vous sont proches, ceux que vous aimez. Mais moi, je vous dis d'aimer aussi les autres. Et la conclusion de Jésus, c'est que si vous faites ça, vous serez fils de votre Père. Si vous le faites, mais il y a des fois des choses qui doivent nous alerter. Quand on l'écoute, ça doit nous faire une lumière rouge. Parce que tout à l'heure, par exemple, on a dit « Qui est ami de Dieu ?» Mais si être ami de Dieu, ça veut dire de lever la main quand on pose la question, c'est bien, c'est confortable. Mais ici, ce que dit Jésus, c'est que si que vous êtes fils de Dieu, si vous faites ça. Et là, c'est tout de suite plus engageant. Hein? C'est ce qu'on vient de lire. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aimez nos amis. Jésus dit, mais les publicains, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de moralité, ils peuvent le faire. Être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous. Mais les païens aussi le font. Est-ce que vous êtes gentil avec ceux qui sont gentils avec vous? Oui, ben c'est un minimum, hein. Maintenant, il y en a à la fin, ils ne savent même plus s'ils doivent dire oui à ça, hein. Mais ça, les païens le font. Si on peut juste dire, ah, mais moi, je suis gentil avec mes amis, ça nous renvoie à l'autre catégorie. Mais pour être sûr qu'on ait changé de catégorie, Jésus dit, alors il faut que tu montres que tu peux aussi aimer tes ennemis. Alors, il y en a qui se débrouillent pour ne pas en avoir. Remarquez, c'est bien, hein. Mais on n'est pas obligé d'avoir des ennemis, on n'est pas tous environnés de philistins tous les jours, hein. Mais tous, on peut avoir des gens qui nous font des embrouilles. Des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui sont difficiles, des gens pénibles. Hein. Et honnêtement, on se trouve facilement des raisons de ne pas les aimer. Facilement, on évacue la question, on l'esquive, on tourne, on dit, je sais pas, on trouve des raisons, quoi. Mais Jésus nous dit, non, si tu veux être parfait, soyez donc parfait. Et c'est je vais pas dire que c'est inquiétant, mais c'est un défi, c'est le programme de la vie chrétienne. Le programme de la vie chrétienne, contrairement à un programme de religion, un programme de loi, c'est que c'est un programme qui fait appel au cœur et à la relation. Ce n'est pas un programme qui inclut une liste qu'on pourrait mettre dans un cahier des charges. Ce n'est pas une liste, ce n'est pas un règlement intérieur, ce n'est pas le règlement intérieur des petits-enfants de la porte ouverte. Mais c'est le cœur qui est changé pour être comme le cœur de Dieu. Et puisque Dieu nous aime, ben Dieu veut que nous soyons comme lui. Il dit, vous soyez donc parfaits. En grec, on peut le traduire, parce que la forme verbale est la même, on peut le traduire par, vous serez parfaits. Quand on donne un ordre avec un futur, ça veut dire qu'on donne l'ordre et qu'on n'imagine pas qu'il ne serait pas obéi. Quand une maman dit à son fils, voilà, bien tu peux aller là, mais tu reviendras à telle heure. C'est une façon de lui donner un ordre, de l'ordre de revenir à telle heure. Mais quand elle le dit au futur, et tu reviendras à 9h, ça veut dire que non seulement elle donne l'ordre, mais qu'elle n'imagine pas, elle donne l'ordre et elle imagine qu'il est déjà obéi. C'est ce qu'il va faire. Jésus nous dit, et vous serez parfaits. Il s'attend à ce que nous répondions positivement à cet ordre. C'est délicat. Beaucoup de chrétiens aimeraient mieux dire, on aime mieux se répéter, oui, oh, écoutez, Dieu nous demande pas d'être parfait. Oui, ça nous arrange. Mais c'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est pas ça. Ce qui est dit, c'est vous serez parfait. Maintenant, quand on l'est pas, Dieu nous aime quand même. Quand on l'est pas, Dieu nous garde quand même. Quand on ne l'est pas, Dieu nous pardonne aussi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu abaisse sa demande. Son but pour nous, c'est que nous devenions parfaits. Qui veut devenir parfait? Alléluia, moi je voudrais bien devenir parfait. Ça serait une chance pour le Seigneur, une chance pour le royaume de Dieu, une chance pour ceux qui m'entourent, une chance pour ma femme, ça lui changerait beaucoup sa vie. Mais d'abord, c'est pour Dieu que nous voulons devenir parfaits. Parce que la perfection, c'est Dieu seul. Et si nous devenons parfaits, alors il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous. Alors nous devenons un avec lui. Et c'est pour ça que Dieu nous le demande. Ce n'est pas parce qu'il est un maître exigeant. Ce n'est pas parce qu'il a oublié qu'on était faible. Ce n'est pas parce qu'il est un Dieu qui a des ordres démesurés, extravagants. Mais parce que c'est un papa qui aime tellement ses enfants, qui ne veut pas que quoi que ce soit se mette entre lui et eux. Et si nous aimons Dieu comme ça aussi, c'est aussi pour ça que nous avons envie d'être parfaits. Amen. On va prier. Seigneur, merci de nous avoir donné un enseignement révolutionnaire. Un enseignement changé, une parole de vie, des principes qui communiquent une vision de vie, une vision de transformation. Je voudrais ce soir vraiment, Seigneur, que chacun d'entre nous, moi le premier et nous tous, que nous soyons vraiment convaincus de marcher vers cette perfection, convaincus de faire des progrès pour toi. Je te prie, Seigneur, ce soir, pour ceux parmi nous, ceux qui sont sur le net, hein, et qui quelque part, ne sont pas convaincus avec ça. Ceux qui imaginent qu'ils ont un droit à se garder des tolérances, une marge de manœuvre avec la chair. Je te prie, Seigneur, de les convaincre. Je te prie, Seigneur, que cette parole ce soir retourne dans leur cœur et ne leur laisse pas de paix jusqu'à ce qu'ils soient d'accord avec le programme de Jésus. Merci, Seigneur. Notre attente est en toi. Nous sommes incapables de faire aucun progrès s'il ne vient pas de toi. Merci Seigneur. Amen.
Restons encore un instant, simplement devant Dieu. Il y a peut-être également toutes les personnes qui sont là et qui, face à ce qu'ils ont entendu, se disent « Mais la barre est tellement haute et j'ai tellement voulu changer. J'ai le sentiment que c'est inaccessible. J'ai le sentiment qu'on n'est pas tous à pied d'égalité face au même défi. Pendant que le clavier joue, j'aimerais simplement vous dire la chose suivante. Vous êtes peut-être là, mais dans votre cœur, Jésus n'est pas encore le roi et le maître. Celui qui nous rend capables, c'est celui qui habite en nous. Par nos propres forces, nous ne le pouvons pas. La Bible dit, mais un léopard peut-il enlever les taches qui sont sur sa peau? Ce n'est pas possible. Le pécheur peut-il enlever par lui-même sa nature pécheresse? Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que Christ est venu. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Et c'est pour le pardon de nos péchés, de mon péché, de votre péché, qu'il est venu. Et c'est pour cela qu'il fait grâce à celui qui s'approche de lui. Alors que nous avons nos yeux fermés pendant un instant, s'il y a une personne qui est dans ce lieu et qui est conscient que ce qui a été dit est juste, vous ne pouvez pas vous opposer à ce qui a été dit. Vous ne pouvez pas vous opposer au fait que rendre la violence pour la violence n'engendre que de la violence. Frappez, on vous frappera, vous refrapperez à nouveau, et on vous refrappera encore, et c'est celui qui restera sur le carreau qui s'arrêtera, mais la haine continuera dans votre cœur. Jésus donne la solution pour désamorcer ces choses. Mais c'est seulement possible si notre cœur est changé.